Eh bien, Lia, je te laisse la parole sur ce beau thème de la beauté.
De la bonté.
La bonté. À chaque fois, j'ai un lapsus entre les deux.
Et ça, c'est intéressant. J'en parle pas ici, mais beauté et bonté,
ouais.
C'est pas la même chose. Il y a des choses très belles qui peuvent être pas du tout bonnes. Je me souviens de ce prof, comment il s'appelait, donc ça, je le couperai peut-être à audio, mais Pinchard, qui parlait de... Comment ça s'appelle ce film-là sur... L'apocalypse, hein, le... Ah, film très connu, là.
Apocalypse Now ?
Non. Sur le fait qu'il y a une sorte de grosse boule, il découvre une grosse boule, là, qui Mélancolia, si ça m'appelle.
Mélancolia.
Il parlait de ce truc, de cette chose qui éblouissait tout le monde, mais qui allait tout détruire, et pour vraiment dire que beauté, bonté, c'était pas la même chose. Mais en même temps, ça vient aussi s'interpénétrer. Enfin, bon, bref, cette introduction n'était pas prévue et je ne sais pas si j'allais voilà,
mais... Mélancolia, c'était dur.
Je parlais d'un livre de Muriel Kenyebal, La fascination de la laideur.
Fascination de la laideur.
C'est un bouquin que j'aimerais retrouver dire, quand j'étais jeune. C'était une prothèse, c'était dur.
La fascination de la laideur ?
La fascination de la laideur.
L'auteur s'appelle
Muriel Kenyebal.
Comment ?
Muriel Kenyebal. Ça doit être en 82, je pense.
Vous voulez que je le vois si je le trouve ?
Ah, oh, ça serait bien. J'aimerais bien le retrouver.
Et donc, voilà, donc pour aborder le thème de la bonté, j'ai trouvé ça assez intéressant d'aller fouiller un petit peu dans tous les courants philosophiques pour voir comment ça avait été un petit peu perçu au fil du temps, ce qu'il y avait dessus. Donc j'ai fait un bref résumé en fait des courants principaux. Alors j'en oublie beaucoup et je ne cite pas les poètes, notamment chez les romantiques ou autres, comment c'est perçu. Mais alors, pour faire bref, donc dans le platonisme, donc la bonté, c'est vraiment la quête du bien et c'est vraiment l'idée suprême et le noyau de la vérité. Donc en gros, la quête des actions justes et bonnes, c'est un objectif absolu. Et voilà, il y a vraiment cette idée que le bien est au-delà de l'être. Chez Aristote, donc, qui quand même reprend un peu les idées de Platon, donc la bonté, c'est aussi le bien suprême. C'est le vivre bien, la floraison humaine. Donc elle s'atteint par la pratique de la vertu. La bonté, c'est pas abstrait, c'est vraiment une pratique et souvent il s'agit de se situer dans une juste mesure entre des extrêmes. Et pour lui, bah, comme pour Platon, en fait, toute vie humaine doit avoir cette visée-là. Dans le stoïcisme, là on passe déjà à autre chose. La bonté réside dans la conformité à la nature et à la raison. Donc être bon, c'est l'art d'être en accord avec ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire l'ordre universel, en visant une mesure et d'opérer un contrôle sur ses passions. Ça, c'est vraiment ce qui ressortait. pour lui aussi, la vertu, c'est le seul bien véritable. Donc bien agir, pour les stoïciens, c'est agir de la manière la plus utile et la plus bénéfique possible. Ce qui donne une forme de beauté morale aux actions, en fait. Voilà, il y a aussi cette recherche d'un équilibre parfait. Donc on se situe toujours dans une quête un peu d'équilibre, de milieu, etc. Ensuite, dans le rationalisme de Kant, notamment, la bonté, c'est une histoire de raison pure pratique. Donc là, on s'éloigne de toute sentimentalité, vraiment, définitivement. Donc la bonté, c'est un acte qui découle du devoir, un devoir moral. Donc en fait, elle dépend ni des sentiments naturels qu'on peut éprouver, ni même des conséquences de nos actions, mais uniquement de l'intention. Quelle est notre intention ? Qui, lui, l'appelle la bonne volonté. Et là, pour lui, la bonne volonté est bonne en elle-même. Et c'est peut-être la seule chose qui est bonne en elle-même, en fait. Et qui ne peut pas servir à de mauvaises fins, comme par exemple l'intelligence le peut. La richesse le peut être vraiment mise au service de mauvaises fins. Alors que la bonne volonté elle-même n'est pas... c'est pas quelque chose qui peut être mis en cause dans l'intention bonne, on va dire. Donc en gros, l'action pour lui... est bonne si elle obéit à ce devoir moral et si elle s'inscrit dans un principe d'universalité. Voilà. Dans l'empirisme, vous me dites hein, si vous avez des questions, si je vais trop vite. Donc l'utilitarisme, donc dans ce courant-là, la bonté, elle est au contraire définie par ses conséquences. Donc on se préoccupe pas tout de l'intention.
Dans quel moment
c'est l'empirisme, l'utilitarisme. Donc là, on se préoccupe pas du tout de justement de l'intention, mais on regarde uniquement quelles conséquences ça a, parce qu'on part aussi du principe qu'une intention bonne peut produire une conséquence finalement désastreuse. Donc pour qu'une...
Tu peux redire l'empirisme et l'utilitarisme.
Oui, c'est les deux. On l'appelle soit l'un, soit l'autre, mais c'est le même courant.
D'accord.
Oui, c'est là, je parle de la même chose.
Je voulais faire une différence.
Non.
Je n'ai pas saisi. Ok.
Non, c'est la même chose. C'est la même chose.
Pour moi, c'est pas la même chose.
D'accord. Bon. Donc, en tout cas, ils ont la même conception. Donc en fait, pour qu'une action soit jugée bonne, il faut qu'elle soit bénéfique au plus grand nombre. Il faut qu'elle produise le plus de bonheur possible pour le plus grand nombre de personnes. Donc là, la bonté, elle dépend uniquement de l'impact. Donc pour eux, en gros, voilà, il n'y a pas de bonté intrinsèque ou désintéressée. Ça n'existe pas. Il n'y a que les conséquences de ce qu'on produit. Et puis, j'ai fini avec, quand même, on ne pouvait pas l'oublier, l'existentialisme. Alors, je n'ai pas cité Nietzsche parce que... j'aurais pu citer vraiment beaucoup d'autres, mais là, bon, il fallait faire court. Donc, chez Sartre, la bonté, qu'est-ce que c'est? C'est un choix libre et éclairé. Ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel. C'est la responsabilité de l'homme, en fait. Donc, elle provient de la capacité de l'homme à poser des choix, à les assumer. Puisque pour lui, dans l'existentialisme, l'homme est condamné à être libre. Donc à partir de ce moment-là, tous les possibles s'offrent à lui. Et il y a vraiment le choix posé.
C'est drôle d'employer le mot condamné pour être libre.
Et c'est le mot de Sartre. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que justement, condamné, parce que c'est un vertige métaphysique considérable en fait. C'est-à-dire que parfois, si on était moins libre, peut-être qu'on serait moins torturé aussi. La liberté, c'est à la fois. Une ouverture immense, et donc je pense que Sartre il met l'accent là-dessus. C'est aussi un gouffre métaphysique et qui laisse tous les possibles. Et voilà, c'est aussi une charge.
Oui,
c'est aussi une charge morale, une charge d'être. Oui. C'est ça.
Une convocation à être.
C'est ça. Donc voilà, c'est un petit peu la formule de Sartre. Donc voilà, en gros, celui qui est bon choisit de l'être. C'est un choix. Ça va, là, pour le petit résumé à travers les siècles
On suit, c'est bon.
Ok.
On boit un coup.
Le gazeuse, ça fait passer le feu. Je viens un peu de la gazeuse aussi, comme ça. Non, mais je suis une soupe. Tu veux une bière?
Voilà.
Non, je ne mange pas. Non, mais c'est pas trop. C'est bien. Je prends des goûts.
Vous avez déjà cerveau grillé. Là. Non, ça va devenir plus simple là.
tu nous prends. On est dans la grande classe là, et je te signale.
Mais oui, c'est l'élite. Hein, c'est la pure élite. Il ne reste que la crème. Donc pour Bobin, donc là, j'ai vu ça un petit peu autour de Bobin parce que j'ai pas trouvé mieux. J'ai beaucoup cherché.
C'est pas le bon bain.
Bombin, ouais, c'est intéressant. Bombin, c'est un beau jeu de mots que j'ai pas pensé à faire. Donc Christian Bombin, donc. Non, mais c'est vrai que ça a été terrible pour moi parce que tous les livres phares, même des livres magnifiques comme celui de Flaubert, Un cœur simple ou des livres comme ça, il y a toujours. C'est très dur. C'est-à-dire que la bonté, soit elle produit des catastrophes, ou je pense à L'Idiot aussi, de Dostoïevski. En fait, la bonté, elle est. Elle n'est pas. C'est-à-dire à la fois, c'est une élévation de l'âme, c'est une vertu, mais à la fois, concrètement. Les gens bons déjà sont loin d'être heureux, ils sont méprisés. Et en plus, souvent ça produit une catastrophe sociale presque, la bonté, ou une catastrophe personnelle dans l'exclusion, etc. J'ai pas trouvé vraiment en littérature, en philosophie, il y a plein de choses, mais purement dans la littérature, je me dis, on va revenir à la source. Oui, c'est ça. Et la source, c'est Bobin, quoi, parce que c'est Bombin. Parce que lui, c'est vraiment le courant vital qui parcourt toutes ses œuvres et jusqu'à la fin. Donc, pour résumer très brièvement, il est né en En 51 au Creusot, il est mort dans la même région en novembre 22. On ne sait même pas s'il a quitté cette région. Un jour.
Oui. Ah oui, tu ne m'as pas dit.
En novembre 22.
Ouais, en novembre 22.
Cette année-là
en 22. Il est décédé d'un cancer. Hein. Et ouais.
C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'écoutais une super émission sur. C'est France Culture sur lui, mais je croyais.
C'est une interview avec lui.
Ouais, c'est ça, tu l'as écouté aussi.
Oui, il en a eu beaucoup.
Ouais, mais c'est marrant.
Mais oui, mais comme il a laissé une trace vive, pour nous, il n'est pas mort.
On a beaucoup parlé de lui depuis sa mort.
Bah oui, c'est pour ça. Oui, oui. Ils ont repris des interviews.
Comme souvent, c'est le cas ouais, d'ailleurs.
Ça nous ouvre des espérances.
Voilà, donc ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il consacrait sa vie à l'écriture. C'était un écrivain très prolifique qui a laissé au moins une soixantaine d'œuvres. Et toutes ces œuvres sont parcourues par cette notion-là. Il y a la bonté, l'amour, la beauté. Enfin, on retrouve ça dans tous ses livres. Donc c'est assez impressionnant parce que c'était vraiment le fil directeur de sa vie. Et donc moi, je me suis appuyée sur le tout dernier, son livre testamentaire, Le Murmure. Il a écrit en grande partie sur son lit d'hôpital. Voilà, donc quelques mois, peut-être deux mois avant sa mort.
Il est mort à quel âge ?
71 ans, je crois. 71. Ouais, il est mort assez jeune. Donc voilà, au moment où le cancer l'a conduit, selon ses mots, au bout du langage. Et donc ce livre, il est dédié à son épouse, Lydie Dattas. Donc, pour résumer le livre, en fait, c'est vraiment... il n'y a pas trop de chronologie, puis j'ai l'impression que les opiacés, ça devait un peu lui monter au cerveau à des moments, enfin c'est des moments il part dans des
moi aussi j'ai des moments j'arrive pas à suivre
dans le murmure tu vois
je suis en difficulté moi en fait dans le mal
mais je pense qu'il y a vraiment des moments où il devait être sous morphine ou autre,
c'est une bonne hypothèse
je pense parce que quand même ça ressemble pas trop de enfin mais bon c'est quand même très intéressant et c'est un fragment c'est des fragments de méditation en fait qui reflète vraiment son combat essentiel et continu pour la sauvegarde de la poésie, de l'amour et de la bonté. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il dit « Les poètes meurent au combat, même quand ils meurent dans un lit. Ils livrent bataille toute leur vie. » Donc même le titre du livre, Le Murmure, ça évoque vraiment une caresse feutrée, quelque chose de doux. Cette voix à bas bruit, comme il disait, de la poésie, qui est facilement étouffée un peu par le bruit du monde. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans ce chant d'adieu, justement, il réitère encore et encore, il réaffirme encore et encore combien la lumière de la bonté, de la poésie sont les seuls moyens de capter la timide présence de l'éternel au cœur du périssable. Et voilà. Donc c'est dans cette vitalité heureuse que nous sommes conviés dans ce livre où lui-même est au bord de l'anéantissement. Donc la bonté pour Bobin, c'est vraiment une des plus hautes qualités d'être qui doit être renouvelée sans cesse et qui répond à la fois à une sorte de tendance naturelle, mais pas que. C'est aussi, elle n'est pas que innée pour lui, c'est pareil, c'est un choix à poser. C'est une orientation, c'est une sorte de vertu ontologique qu'il faut cultiver en nous et j'ai presque envie de dire même parfois éduquer en nous. Donc elle n'est pas acquise une fois pour toutes en fait, mais elle est requestionnée constamment. Donc la bonté pour lui, ça répond pas à un code moral, mais vraiment c'est une poétique de l'existence, une manière de poétiser l'existence qui consiste vraiment à purifier notre regard sur le monde, à lui rendre sa transparence, c'est-à-dire en fait à se désencombrer de tout ce qui fait barrage. Donc le superflu, l'arrogance intellectuelle, les doctrines, les fausses interprétations, qui sont pour lui finalement une prise de pouvoir sur le monde. Donc il y a vraiment cette esthétique du dépouillement chez lui. Et c'est pour ça que moi je pense que chez lui la bonté ça appartient presque à un principe, on va dire, spirituel de dégagement, c'est-à-dire que on va mettre vraiment à distance tout ce qui va faire barrage à notre attention. Et on va créer une zone de conscience vraiment aérée qui nous donne justement l'opportunité d'accéder à une réalité plus profonde et nous incite à développer une force nouvelle, incarnée et agissante. Et c'est vrai que pour Bobin, s'il n'y a pas cet espace de disponibilité, il n'y a pas la place pour la bonté. Si on est constamment pris dans nos ruminations, dans nos préoccupations mentales, il y a quelque chose qui vient se refermer en nous. Et quand je dis que c'est une force agissante, ça veut dire que entretenir en nous cette qualité d'être, pour lui, c'est aussi puissant qu'une action politique militante. Et même, j'ai envie d'aller plus loin et de dire que pour lui, c'est la seule action politique vraiment militante. Lui, il avait pris énormément de distance avec la politique. Je ne sais même pas s'il s'y intéressait. Je crois qu'il avait ni la télévision ni Internet. Mais pourtant, il s'intéressait au monde, à la marche du monde. Et voilà, donc c'est vraiment atteindre cette ventilation de l'esprit. Et chez lui, d'ailleurs, c'est visible jusque dans l'économie du langage, dans ses textes. Et il dit justement, il faut éloigner beaucoup de choses, beaucoup, pour écrire un livre fort. Je veux dire, un livre qui s'envole et qui va non aux cieux qui sont purs et illisibles, mais auprès de qui on a vitalement besoin. C'est beau ça, non ? Donc la bonté, pour lui, en gros, elle s'impose vraiment comme un acte de résistance face au cynisme obstiné de notre époque. C'est vraiment un effort contre la pesanteur du monde. Et c'est aussi comme ça, d'ailleurs, que le voyait Simone Weil. Donc on parle vraiment d'une posture existentielle qui va à contre-courant de la dégradation des êtres dans la barbarie ou l'indifférence, et qui voudrait voir triompher le désir humanisant de l'homme. Et donc il dit, l'intelligence est la force solitaire d'extraire du chaos de sa propre vie. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. La poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre là-bas, comme nous égarés dans le noir. Donc pour lui, l'intelligence, c'est ça. Et il dira aussi, une intelligence sans bonté est comme un costume de soi porté par un cadavre.
C'est hallucinant. Ouais.
C'est frappant.
Ah, mais c'est tout le temps
comme ça. Ouais, ouais. Donc, contre tout ce qui nous paraît humainement intolérable, la bonté, au contraire, ça va être une force qui va nous tenir en éveil. C'est une expérience décisive dans laquelle un être est rendu attentif à la lumière qui le touche et à la signification de cette lumière. Et à force, en fait, et notamment à force de cultiver ça, ça va vraiment produire, ça peut produire en tout cas, une sorte de basculement progressif ou parfois radical du côté de la vie et de la préservation de la vie. Et pour lui, c'est la seule révolution que l'homme peut vraiment mener à bien dans son temps d'existence. Et je rappelle quand même l'étymologie du mot « révolution » qui veut dire « action de revenir à son point de départ » ou « mouvement de rotation », c'était utilisé en astronomie. Donc en fait, on peut voir ça comme un retour à une nature dépouillée de l'inutile, à une forme d'abondance première. Parce que pour Bobin, tout est là, à portée, sauf que le monde manque de nos yeux, quoi, en fait. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc ça, c'est un extrait de La Grande Librairie, donc c'est une mini-interview qu'il avait donnée. Et il dit « Les effondrements que nous connaissons viennent d'une sorte de mort émotionnelle, d'une apathie. Je pense que pour lutter contre ces effondrements, nous ne devons pas prendre les armes de l'adversaire, parce que vous deviendriez l'adversaire. Il faut lutter simplement avec une puissance aimante, une attention, un regard, et, j'oserais même le dire, une bonté. Mais la bonté, il faut l'entendre comme une chose forte. C'est un mot qu'on a mis à la porte. C'est un mot qu'on a transformé en gueux, en mendiant, et qu'on traite comme tel. Mais la bonté, comme je la définis, c'est la pointe acide de la pensée. C'est une pensée vitale sur le monde, et c'est une pensée armée. Ça ne rigole pas, la bonté. Voilà comment je répondrai au désenchantement morne partout répandu. Ça, c'est un extrait de La Grande Librairie.
J'allais le citer, mais tu l'as...
Comment ?
J'allais le citer, mais
tu l'as... Ah, bon, voilà. J'ai devancé. Donc, pour Bobin, la bonté, c'est aussi une sorte de présence offerte à la vulnérabilité et surtout une présence qui va se tourner naturellement vers tout ce qui va être fragile et menacé, vers ces choses minuscules qui se remarquent à peine, insignifiantes et qui sont souvent ignorées, les fleurs, les oiseaux, les vieillards malades, les enfants. Donc il dit « Pierre, fleurs, arbres et nuages nous innocentent et ne demandent rien en échange si ce n'est notre regard sur eux, un instant si pur qu'il enflamme jusqu'au dernier cercle de l'univers. Donc c'est par la reconnaissance de cette fragilité qu'un espace de véritable compassion peut s'ouvrir, quoi. C'est une image vraiment d'une armure fendillée par laquelle va vraiment venir s'engouffrer une lumière si on est tout le temps carapacé à se protéger de tout et même de, j'ai l'air même de la souffrance en fait, et bien à un moment donné il n'y a plus rien ne rentre, quoi. Donc pour lui c'est vraiment la capacité à se laisser toucher par la présence de ce qui est faible, limité, mortel et défaillant, permet de s'ouvrir sans défense à l'infinie grandeur que toutes ces choses portent en elles, et aussi de leur rendre leur dignité. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de la bonté, dans l'attention, dans le regard, dans l'attention à ce qui est faible, en fait, va venir rendre une épaisseur et une dignité aux choses. Et il dit, Bobin, je n'ai que mon cœur pour traverser la vie. Rien d'autre que cette valise de réfugié en cuir rouge, cadenassée à la naissance. Voilà, et il y avait aussi le philosophe polonais Kolakowski, je ne sais pas si vous connaissez, qui lui aussi pensait qu'être bon, c'était, il fallait, pour être bon, accepter d'être ouvert, blessé, et de prendre en soi un peu le fardeau des autres. Donc, j'ai quand même recité Bobin sur une petite anecdote, une petite citation que j'aime bien sur les fleurs. Donc, c'est dans le murmure aussi. Évangile des gueux, poudrier des fantômes, ces petites fleurs jaunes, hautes sur pattes, dressées entre le béton du mur d'entrée et les pavés de la rue. Leur jaune, même par temps gris, est le bonjour d'un dieu auquel personne ne répond. Ces fleurettes jaunes, s'extrayant à mi-corps des pavés, je les croise tous les jours en sortant. Le jaune des fleurettes descend en poudre sur mon cœur, le tamise, le calfeutre, le materne. Leur jaune savant, plus savant que 10 000 savants, tellement plus précis. Des aiguilles de simplicité plantées dans mes yeux, et mes yeux s'ouvrent, se rouvrent enfin à la précieuse démence de vivre encore une fois, un jour, une heure. Petites infirmières jaunes, vos regards sont si purs qu'ils redressent ma colonne vertébrale. Ils cherchent aussi un autre monde.
C'est
bon. C'est sûr. C'est extraordinaire, c'est ce qu'ils sont, Bobin.
La présence, je crois qu'il y a
beaucoup. Et moi, on s'en lasse pas, en fait. Enfin, moi, je m'en lasse pas. C'est... Donc vous l'avez compris, pour lui la bonté, c'est pas du tout quelque chose qui est abstrait, dogmatique, rationnel. C'est une émotion qui doit être incarnée et qui doit témoigner d'un enracinement dans l'être. S'il n'y a pas l'enracinement dans l'être, s'il n'y a pas quelque chose de profondément ressenti, ça, pour lui ça ne vaut rien. Et c'est pour ça que il y a aucun argument scientifique ou religieux qui peut rendre compte de ce qu'est l'art de l'attention quand il est pleinement vécu. Donc lui, il est complètement en marge de ça. Et pour lui, la bonté, elle n'est pas héroïque ou spectaculaire. Elle est presque inconsciente d'elle-même quand elle se manifeste. Et elle cherche simplement à préserver ce qui est précieux pour nous dans l'humilité de nos gestes, en fait. Et il dit, c'est grâce à l'insomnie des mères consolant un enfant dévoré par les diables de la nuit, ou à un balayeur aidant ici ou là un trottoir à mieux respirer. Oui, c'est grâce à ce genre de service que les ténèbres n'ont pas encore refermé définitivement leurs bras sur les humains. Écrire, c'est ce genre de service. Voilà. Donc vivre la bonté, pour lui, c'est aligner son être essentiel avec ses actions. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence profonde. Et cette bonté doit s'offrir gratuitement. Alors je vous ai encore mis un extrait. Et c'est là où je vous dis qu'il part un peu en main. Bon, alors... si tu cherches une récompense pour ce que tu fais, laver la vaisselle ou jouer Chopin, alors, plutôt, ne fais rien. Tu as par avance échoué dans l'absolu chef-d'œuvre de la vaisselle ou du poumon des anges. Chopin est une inhalation pour les anges asthmatiques, ces hypersensibles saupoudrés sur terre dès leur naissance jusqu'à leur mort, car les anges naissent et meurent comme Bouddha, comme les tortues, et comme nous. Et là, je pense qu'il était sous morphine. Alors j'ajouterai aussi quand même que la bonté, c'est pas forcément pour lui une expression authentique de soi. Il y a une différence entre ressentir les choses authentiquement et exprimer les choses authentiquement à quelqu'un. Et notamment, il y a une petite anecdote à l'hôpital sur la nourriture qu'il trouve infecte. Mais ce qu'il lit, il écrit un mot vraiment gentil. Alors peut-être qu'on peut y voir un peu d'ironie, etc. Mais il y a quelque chose vraiment où jusqu'au bout, il y a une délicatesse en fait profonde dans sa façon d'exprimer les choses. Et pour lui, comment dire, en fait, mentir parfois avec une infinie délicatesse, c'est parfois bien parce que on pourrait dire que la sincérité est une sorte de défaut car elle ne tient pas compte des intérêts de l'autre. En fait, la sincérité comme ça, elle ne tient pas compte des intérêts de l'autre. Donc du coup, voilà, pour lui, il y a quelque chose comme ça à raffiner dans l'art de la tendresse, dans l'expression de ce qu'on manifeste à l'autre. Et pour lui, la bonté va jusque-là. C'est vraiment dans la prise en considération totale de ce qu'est l'autre, de l'altérité, quoi, et de comment il va recevoir ce qu'on est. Donc vous l'avez compris, et là j'entame mon dernier paragraphe avant de vous laisser la parole. Donc pour lui, c'est vraiment le lieu d'une disponibilité radicale au réel. C'est la forme la plus pure et la plus avancée de l'attention, celle qui permet de raffiner et de raffermir notre rapport au vivant. Donc la question de fond que soulève la bonté, c'est un peu toujours la même, c'est-à-dire comment éviter la réification, c'est-à-dire transformer l'autre en objet. Comment pouvons-nous penser l'autre comme un sujet et non comme un objet? Et c'est très dur en vérité. Et c'est très très dur de ne pas voir en l'autre qu'une image, une représentation. C'est-à-dire comme un être animé, sensible, qui me fait miroir dans mon humanité et qui est dans son propre laboratoire intérieur, etc. Donc toute la question de la, partie de la question de la bonté réside dans cette question qui est beaucoup plus profonde et difficile qu'on le pense, à mon avis. Donc pour Bobin, en fait, le mal provient d'un défaut d'attention. C'est-à-dire, c'est notre capacité en fait à nous laisser distraire et à rater l'autre, à rater l'événement de la rencontre. On passe à côté. C'est pourquoi la bonté, c'est un don généreux mais exigeant. Elle réclame de nous une vigilance de chaque instant. Donc voilà, c'est une sorte de dévoilement d'un fond originel où réside à la fois la plus grande intensité d'être, mais ce n'est pas l'expression d'un bonheur aisé, en fait. C'est la manifestation d'une volonté acharnée pour faire advenir le bien dans un monde qui nous met constamment à l'épreuve. Donc on en revient à une forme de résistance, c'est-à-dire qu'on, c'est quelque chose qui contre, on doit lutter contre certaines choses, et l'arme, ça peut être la bonté, mais c'est vraiment quelque chose de très exigeant, en fait, quelque part. Enfin, d'à la fois fluide et exigeant. Il y a un petit peu ces deux dimensions chez Bobin. Il y a quelque chose qui coule et qui découle, et il y a quelque chose qui requiert presque de faire autorité sur nous un peu à chaque instant pour pas nous laisser dévier, quoi. Ou entraîner dans des trucs, dans des marasmes.
Dans des dérives.
Ouais.
En même temps, il y a une notion de lâcher prise, je pense. D'offrande à la présence. Quoi. C'est ça que je ressens chez vous.
Il y a vraiment les deux, je trouve. C'est très fort, c'est là où c'est très fort. C'est à la fois la présence pure, enfin, c'est un titre, ces titres, mais c'est vraiment une très haute qualité de présence. Donc on pourrait penser qu'il y a du lâcher prise, mais en fait il y a aussi une intensité de volonté.
C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, pour atteindre cette présence pure, il faut à la fois se dégager cet espace en nous, donc se dépouiller, lutter contre... Donc c'est là où il y a une exigence pour lui d'attention à avoir. Enfin oui, c'est pas si simple, quoi. Il y a un paradoxe là-dessous.
C'est-à-dire que c'est de l'écrire. Le fait de l'écrire, ça c'est une exigence. Mais c'est tellement difficile d'aller caresser cette nuance avec les mots.
C'était une délivrance.
D'écrire.
D'écrire.
Finalement, c'est très difficile d'être bon.
C'est même, d'ailleurs, il le dira, que je crois que j'avais une petite citation.
Il parle que de lui. C'est peut-être très facile pour
bien d'autres. Non, justement, c'est surtout que c'est très difficile.
Ben justement, c'est ce qu'il dit. Donc, en fait, donc pour lui, c'est vraiment rentrer dans une pleine adhésion à la vie, malgré. C'est-à-dire malgré la part de souffrance qu'elle comporte, malgré les ombres, malgré tout ça. En fait, c'est vraiment poser ce choix du oui. Et la bonté, pour lui, c'est un choix marginal et difficile. Et c'est pourquoi elle réclame d'être défendue. Et bon, après, il déplore qu'elle soit très peu défendue, justement.
Elle est
raillée, oui. Et bien, justement, comment ?
La bonté est souvent raillée.
Oui,
c'est ça. Raillée, lui, on le traite de ravi de la crèche, etc. Ça, ouais. En fait, dès qu'on est dans ce sentiment, en fait, on est presque dans du sentimentalisme, mièvre. C'est ça. Et donc, il dit, c'est la bonté qui me stupéfie dans cette vie. Elle est tellement plus singulière que le mal. Et donc pour lui, c'est un acte de transmission et presque de résurrection, j'ai envie de dire, puisque Bobin évoque l'idée que de laisser son œuvre aussi pour qu'elle s'ensemence dans de nouvelles vies, prolongeant ainsi son existence au-delà de sa propre finitude. En fait, chez lui, il y a une esthétique du salut, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il évoque constamment un petit peu, enfin il fait référence souvent au Christ, et à des figures comme ça, religieuses, parfois mystiques, parfois mythique aussi, parce qu'il y a vraiment c'est un acte de foi, un acte de salut, un acte de courage, un acte de rédemption, sans dire qu'il y a une faute à payer, c'est pas ça, mais il y a peut-être une faute à ne pas commettre, c'est peut-être ça le... Ouais. Et donc il dit
emploie le mot de rédemption parce que je déteste, moi c'est bon.
Non, là c'est moi qui le dis, en tout cas il le dit peut-être,
je suis trop battu, si tu veux, pour que dans tas de choses, si tu veux, la douleur, c'est une rédemption, tu veux, dans le domaine médical, entre autres, disons. Et c'est vrai que je suis beaucoup battu, si tu veux, pour que les gens atténuent la douleur et autres, mais toujours, très très souvent, rédemption. Et en particulier, dans un cas très concret qui me touchait particulièrement, mes copines ne sont pas là aujourd'hui, dans l'avortement. C'est l'avortement, si une femme souffrait lors de l'avortement ou des conséquences, là c'était une rédemption, quoi, parce qu'elle avait fait. Donc c'est vrai que moi je n'aime pas ce mot-là. Je sais pas comment.
Parce que tu vois
quand même, c'était un peu beaucoup. Comment utiliser la rédemption dans la maladie pour la douleur.
Ah oui, c'est sûr que
c'est. Ça justifiait la douleur. C'était un acte de rédemption.
Après, la rédemption, c'est. Oui, c'est pas dans notre champ, effectivement.
C'est un mot que je bloque complètement.
Se
racheter de ses fautes.
Moi, je suis convaincu, tu vois, mais c'est pour ça que je suis toutes les culottes.
Non, mais c'est vrai, ça c'est sorti comme ça. Oui, parce que la rédemption, c'est vrai que ça implique une faute à payer, quoi.
Moi, je bloque complètement.
Chez Christian Bobin, c'est pas une référence religieuse. C'est une référence spirituelle.
Oui,
ce qui n'a rien à voir.
Oui, c'est vrai.
Donc je termine, j'en ai plus pour longtemps.
C'est dommage.
J'ai essayé de faire court, mais.
Non.
Donc il dit, Bobin.
C'est ça, c'est Martine.
Oui.
Bon bain. Christian Bombin. Il adorait la piscine.
Ouais, la piscine. Je dis bon bain.
Des bleus. Pas les piscines. Je sais.
Des bleus. Merci.
Bon bain. La piscine. C'est pas. Je suis revenu très très gratté.
Bon bain, je vais à la piscine. Ça c'est bien.
Il y a le petit bain, puis il y a le bon bain.
Le grand bain.
Donc il
me dit. Moi c'est pas enregistré tout ça.
Bon.
Tu avais arrêté déjà, non?
C'est vivant. On s'amuse beaucoup.
Vous devriez venir, franchement.
Venez à l'ethnocafé.
C'est bien fait pour ceux qui ne sont pas là.
Reprenons.
Oui, voilà. Donc il dit, je chercherai désormais ce peu de lumière dont nous avons la garde, dont nous ne pouvons douter, qui est notre âme aux ailes coupant la soie de l'air. Donc en fait, on en revient à ce principe aussi que la bonté doit se cultiver en nous, que c'est un choix souverain qui doit sans cesse être révisé et réajusté. Voilà, cultiver en nous cette source lumineuse par l'écoute, le silence partagé, les gestes du quotidien, comme la façon de préparer un repas, même de dire bonjour à quelqu'un. Car plus on prend soin de cette lumière en nous, plus elle va grandir et se manifester comme une évidence. Et plus elle va pouvoir se répercuter à l'intérieur d'autres êtres qui sont peut-être en demande aussi. Donc, bon bain. C'est bon. Oh là là. Complètement. Donc, il n'est pas dans une conception purement volontariste du mal. C'est-à-dire, en fait, il estime que l'agent de la méchanceté est lui-même dans un état de souffrance, de manque, l'inattention est donc coupée de ce qui est vivant en lui. Et ça rejoint du coup aussi ce que disait Simone Veil par là. Elle disait « L'acte méchant est un transfert sur autrui de la dégradation qu'on porte en soi. » Donc en fait, c'est ça qu'il faut travailler en premier lieu. C'est la dégradation qui est en nous. Donc il faut absolument s'occuper de soi et de cet aspect-là. Donc aussi pour Bobin, Bobin, je suis perturbée là, vraiment, vous m'avez perturbée. Donc la bonté n'est pas naïve, elle répond pas à une candeur béate. Moi j'ai jamais vu ça dans ses œuvres, alors que c'est ce qui lui a été le plus reproché. Et moi je le trouve extrêmement lucide et il a écrit des textes extraordinaires sur un texte sur Althusser là qui avait tué sa femme, qui avait, enfin il écrit, enfin il est complètement conscient de tout pour moi de. Il n'est pas dans la négation, en fait, de ces aspects-là. Il est dans un désir de dépassement et de transfiguration. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, je ne cherche pas à nier donc, ni la douleur, ni le ravage qu'elle cause, mais la bonté, c'est le lieu où nos ombres peuvent se convertir, justement. Donc la bonté, qui peut être clairvoyante pour Boba, et donc il nous invite justement à rester dans un émerveillement lucide pour réenchanter le monde. Et d'ailleurs dans le murmure, et ben jusqu'au bout, il ne lutte pas contre la mort finalement, mais pour la vie que le poète doit protéger jusqu'au bord de sa disparition. Voilà.
Merci Yann, tu as bien travaillé.
Oui, c'est
merci, bravo.
Surtout extrêmement bien écrit. Ouais.
Bix.
Ouais, si vous acceptez,
on est content d'être venu. Hein, voilà.
Si vous acceptez, je veux bien vous citer deux passages de Christian Bombin. Le premier dans Les Lumières. C'est pas Les Lumières, c'est comment il s'appelle. C'est La Lumière du Monde. Il écrit La bonté est une lumière. Est une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle brûle doucement, comme une bougie dans une pièce où tout le monde dort. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se vante pas, elle ne demande rien. Elle est là, simplement. Et c'est elle qui, au matin, réveille le monde. Voilà, il y a un autre extrait dans Le Très Bas, en 92, où il dit « La bonté, c'est comme l'eau. Elle va toujours vers le plus bas, vers le plus pauvre, vers le plus abandonné. Elle ne monte jamais, elle ne s'élève jamais, elle descend. Elle s'humilie, elle se fait petite, et c'est ainsi qu'elle grandit.
Et je raconterai, je rajouterai, elle ruisselle.
Elle ruisselle.
Elle ruisselle.
Elle
ruisselle.
Tu pourras me l'envoyer, ça ?
Bien sûr.
C'est une bonté ruisselante.
En écoutant tout ça.
ça, j'avais une image qui me venait, parce que je pense qu'on a, enfin, je ne sais pas si vous, mais moi j'ai des images d'une personne qui pour moi représente ça.
C'est qui?
C'est une grande tante, c'était Marthe, tante Marthe. C'était une femme, d'abord son mari était assez exceptionnel, mais il est mort jeune. Mais qui, dans tous ses gestes, dans tout ce qu'elle était, il y avait une simplicité, une douceur, et pour moi c'était ça en fait. Elle vivait, elle émanait une bonté simple et naturelle d'elle. Ça n'était pas beau, très, très discret, extrêmement discret.
Je peux vous en mettre une autre.
Très modeste finalement la bonté.
C'est intéressant parce que maman on l'appelait. Maman on l'appelait qu'elle était trop bonne.
Ta maman?
Ouais. Et ses sœurs, ça les rendait un peu mal à l'aise, jalouse.
Oui, jalouse peut-être.
Méprisante.
Ah, oui.
On comprend pas pourquoi elle traverse la vie aussi facilement alors qu'elle est bonne, quoi. Elle est juste bonne. Ouais.
Il y a une expression dans le Midi, je vous la racontais. Il est bien bon, mais peu cher.
Il est quoi?
Il est bien bon, mais peu cher.
Mais peu cher. Tu vois, c'est dénigrant, quoi.
Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Je voulais citer. Il est bien bon ou elle est bien bonne, mais peu cher.
Trop bon, trop con, on dit.
Trop bon, couillon.
Trop bon, trop con.
Trop tôt, con.
Ah oui, couillon.
Oui, bête.
Ah oui.
Donc ça fait vraiment écho à ce que tu dis, enfin, quand tu évoques les reproches qui sont faits à son besoin, c'est vraiment la même nature. Hein,
c'est vrai que je regrette de ne pas avoir, j'avais plus en tête ta proposition qu'on cherche aussi de notre côté, c'est dommage, parce que je me disais Christiane Singer, elle a dû
écrire aussi.
Enfin, c'est la personne, la seconde personne à laquelle je pense. Après, c'est pas de la littérature, vraiment, je pense que c'est écrit,
Mais c'est
qui c'est qui avait présenté Christiane? C'était toi?
C'était hier. C'était la première soirée.
Ouais, mais
Et tu as raison, c'est intéressant que tu mentionnes que dans la littérature, effectivement, les figures, les grandes figures de bonté finissent pas bien, quoi. C'est vrai, il y a un cœur simple. Je sais plus, dans Maupassant, il n'y a pas aussi des histoires comme ça.
Maupassant, c'est sûr que.
Effectivement, dans la littérature contemporaine, on n'imagine pas quelqu'un qui mettrait en avant un héroïne ou un héros. Enfin, encore que si, hein, peut-être un peu dans la littérature, comme moi je lis pas trop, mais Valérie Perrin ou ce genre de littérature là, même peut-être. Valérie Perrin. Valérie Perrin, c'est celle que tu as vue. À ta mort, non?
Oui.
Mais je pensais pas à elle. Il y a un mouvement de romans un peu à succès qui mettent en avant des personnages, va dire, mais là, plein de bons sentiments, tu vois. C'est pas la même chose. Mais je veux dire, c'est ça qui est représenté dans la littérature aujourd'hui. Plus que.
Et aujourd'hui, il y a des tas de romans à la con qui sortent.
Oui, c'est ça.
Mais c'est affreux quand on voit ça. Après le confinement et pendant le confinement, tout le monde était très gentil, très bon. Moi, j'ai vu tout le monde me parler bien, me disait pour le reste. Après le confinement, chacun pour.
Ah, c'est dingue!
Ouais. Moi, je me demande quand même, pourquoi ce besoin de dénoncer la bonté, quoi, de l'éloigner de nous au maximum. Et je me demande si c'est pas justement parce que c'est presque trop exigeant, au fond. Il y a quelque chose qui demande.
La peur d'être bon.
Oui, la peur d'être bon.
Oui, pour certaines personnes, la bonté, c'est pas signifie une certaine faiblesse, finalement.
Oui, ça.
Alors que c'est tout contraire.
Oui.
Je vais vous dire un petit mot de
qui fait quoi ça de Jean-Marie Kervich, je sais pas si vous voyez ici, c'est un poète gitan, d'ailleurs qui a été qui a été mis en lumière par Christian Bobin, qui l'aimait beaucoup.
Ah. Oui, 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 c'est ça.
Il dit la souffrance est prête à enfanter. Ce sera un fils, un esprit saint, un prophète. Il sera à l'écoute des moindres mots que lui diront les éléments, de la feuille morte au grain de blé, de l'homme puissant au plus misérable. Cet esprit saint s'appelle la bonté, mais beaucoup le rejettent en eux-mêmes.
C'est beau.
Ouais, c'est ça, beaucoup le rejettent en eux-mêmes.
Mais je sais pas.
J'ai trouvé sur Christian Bobin.
Quand j'ai Christian Bobin, moi, il y a plein de fois où je peux pas, où je suis obligée d'arrêter la lecture tellement c'est intense, justement dans le niveau, l'intensité de la beauté qu'il y a dans ces mots est telle que c'est impossible de le lire comme on lirait.
Ça ne s'avale pas.
Et parce que ça vient, enfin moi je trouve que ça vient vraiment nous convoquer à quelque chose vraiment de très personnel et authentique. Quoi, c'est ça.
Ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il écrivait comme il parlait, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu le vois parler, c'est un homme bon, quoi. Le contact qu'on a avec lui, c'est quand même... il était gentil, quoi. Enfin, c'est toi qui lui as parlé, mais il était juste disponible. Tu l'appelles, c'est un gars que, enfin, il l'a appelé au téléphone, et on trouvait le numéro dans la lumière, quoi. Bonjour.
On a passé 45 minutes quand même à discuter.
Chris.
45 minutes.
Du Creusot.
Ouais. Je suis tombée sur sa femme d'abord. C'était un peu malaisant, mais mais en fait, c'est ce qui m'avait beaucoup surprise dans cette conversation. C'est qu'il m'a laissé parler, je veux dire, sans m'interrompre. En face de moi, j'avais un espèce de silence, mais profond et radical, d'une intensité, même si on était là, je ne voyais pas son expression.
Tu l'entendais à la qualité.
Et puis parfois, j'arrêtais de parler, je me disais, bon, il va dire un mot, là, il va quand même. Et il devait sentir que je n'avais peut-être pas fini, donc je poursuivais. Enfin, et c'est ça qui était très perturbant. Et à un moment... voilà, il avait rassemblé dans son écoute l'attention, tout ce qu'il avait pu capter, et là il a commencé à parler et à dire des choses. Mais c'est très rare au téléphone quand on passe quasiment 10 minutes avec quelqu'un qui ne dit rien. C'est étonnant. Oui. C'est étonnant.
J'ai connu un théologien, pour ça.
Il peut être étudiant.
Maurice Pivot. Tu parlais d'un truc très très bas qui touchait beaucoup. Il disait rien. Puis d'un seul coup, il avait mûri une pépite. Voilà, c'était un condensé qui était livré comme ça. Puis, j'avais vu une question.
Il écrit comme il parle comme il écrit, ou il écrit comme il parle. Il y a une interview où il parle de la maladie d'Alzheimer de son père. C'est absolument fabuleux, quoi.
Si vous voulez, je peux vous lire un petit passage souvent cité qui résume bien la pensée de Christiane Singer à propos de la bonté et qui se trouve dans la vie profonde. Pour moi, c'est pas le même niveau. Mais... La bonté n'est pas une vertu parmi d'autres, c'est la vertu par excellence, celle qui donne sens à toutes les autres. Elle est le souffle même de la vie, ce qui nous permet de respirer ensemble, de nous reconnaître et de nous sauver mutuellement. Christiane Singer invite ainsi à cultiver la bonté non par devoir, mais comme une expression naturelle de notre humanité, une réponse à l'appel du monde et de la vie. Elle était aussi une forme de résistance face à la violence et à l'indifférence. On retrouve ça. Elle écrit que la vraie bonté naît de la reconnaissance de notre vulnérabilité commune et de la capacité à accueillir l'autre dans sa totalité, avec ses ombres et ses lumières. La bonté, selon elle, est un acte de liberté et de création une manière de transformer le monde par des gestes simples, mais profonds.
C'est l'imprimante qui part en week-end.
Elle est bien heureuse.
Elle est la fille.
Après, c'est vrai que je me dis, quand je regarde un peu la vie de Christian Bain, même Christiane Singer, qui disait elle-même qu'elle avait eu une vie très préservée, finalement, jusqu'au moment de la tromperie qu'elle a assumée, ouais, qu'il a bien ravagée. Mais en tout cas, l'enfance, même, elle avait une vie maritale très heureuse pendant beaucoup d'années. Et Christian Bobin, en fait, c'est... C'est pareil, il avait deux parents extrêmement présents, aimants, qui étaient complètement dévoués à leurs enfants, qui étaient... je pense qu'il a grandi aussi dans un climat qui appelle au développement de cette qualité. Et je me dis ça aussi, c'est-à-dire pour donner de la bonté, il faut aussi en avoir reçu.
Oui,
et c'est vrai, quand on regarde les ailes, même... C'est ça. Et même moi, quand je regarde les êtres autour de moi... Non, pas tous, non, c'est pas vrai. Parce qu'après, il y en a qui ont cultivé ça en eux, soit parce qu'ils avaient cette tendance, soit parce qu'ils ont fait ce choix plus tard. Mais je veux dire, souvent, quand même, voilà, quand j'explore leur histoire, c'est une histoire qui est... En tout cas, il y a eu ce don d'amour, de bonté autour d'eux. Enfin, non, je sais pas. Enfin, en tout cas, quelque chose qui a été nourricier, quoi, à ce niveau-là.
Je pense que si tu l'as jamais connu, tu...
Bah, c'est ça.
Faut au moins que tu le rencontres.
Oui,
tu le rencontres pas.
Le rencontrer, oui, c'est ça,
un moment
en fait.
Dans sa vie, quoi. Ouais. Être marqué par ça,
oui,
un moment dans sa vie.
On est toujours sur l'enregistrement.
Oui. Oui, je suis sur les lieux. Et ben, ok. À la suite.
C'est un redoublant.
Hein?
C'est un redoublant qui arrive.
Un livreur.
Hein? Un livreur. Il livre
la bonté.
Il a la bonté de livrer une bonne imprimante.
La bonté qui vient faire un tour.
J'ai une intuition.
C'est pas que la bonté.
Il attendait quelque chose ou pas?
Oui, une livraison.
Hein?
Oui, une livraison.
Une livraison. Oui. Ah.
C'est quoi ton intuition?
Non, non, je ne dirai pas. Non, je suis planté.
Comme ça, c'est clair. Alors, il était bon, ce livreur, mais...
Ben, c'est les voix à dire qu'ils sont dans une minute, mais...
Ah. Il dit toujours ça pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui les attend. Parce que ça leur permet de gagner du temps.
C'est marrant, moi, je n'emploie pas la bonté, parce que j'ai cette image. Il est trop bon, peu cher.
Ouais,
c'est bon, marrant, hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté péjoratif, ouais, presque.
Et donc, je préfère utiliser la bienveillance. Ah oui. Et je trouve que dans la bienveillance, oui, il y a une action proactive.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est bon, on ne sait pas trop pourquoi on est.
Oui.
Dans ma petite tête, hein, qui est toute petite comme ça. mais la bienveillance, c'est quelque chose de volontaire qu'on développe et qu'on. Et puis la bienveillance intègre plus l'altérité que la bonté. La bonté. Non, mais je dis dans ma petite...
Ouais, c'est ta perception.
Moi, je n'emploie pas le mot bonté du tout.
Ouais.
Parce que j'ai cette image négative que dans les villages, on dit, il est bien brave, mais plus cher. Et c'est pas un danger.
La bienveillance, c'est un côté un peu unilatéral, je trouve.
Ah, oui, c'est vrai, je n'aime pas ce mot, maintenant.
Tu n'aimes pas le mot bienveillance?
Non, il est galvaudé.
Ah, mais non, il
est vraiment...
Ça, je suis d'accord.
Il est utilisé à tellement de sauce, c'est ça. Justement, pour moi, aujourd'hui, il est plus synonyme de mièvrerie, de naïveté que bonté, qui est vraiment...
Une
qui a tellement été oublié que
voilà.
Là, on le réhabilite quand même.
Il faudrait la changer le langage.
Ouais. Et puis, ouais. Non, mais dans la bienveillance, je sais pas pourquoi, je vois ça comme quelque chose de presque un peu forcé. De...
La bienveillance, oui, c'est comme s'il fallait se forcer.
Il fallait se forcer, être bienveillant, voilà. Par
principe. Oui, tu vois, mais on se rejoint un peu. Je suis d'accord avec vous, oui. Parce que ce que j'ai dit, la bienveillance, c'est une notion de ce que j'appelais proactivité.
Oui,
c'est-à-dire qu'on est obligé, si tu veux. Et bonté, parce que, bon, c'est vrai, mais je ne sais pas. Parce que parfois, pour être bienveillant, il faut donner un petit coup de pied au cul, quoi. Pardonnez-moi.
Mais pour moi, la bonté,
c'est... enregistré, au moins.
La bienveillance, ça serait effectivement un acte volontaire, mais la bonté, ça serait un acte presque involontaire, fondamentalement...
Inscrit
en nous.
Je suis bien d'accord avec toi, c'est ça.
Voilà, il y a quelque chose qui nous meut dans la bonté, qui est au-delà de la bienveillance, qui est plus effectivement un choix...
Je dirais tu veux, si on peut former des enfants à la bienveillance, mais où ils sont bons ou ils sont pas bons, tu vois, c'est un peu caricatural.
Attends, ce que je veux
dire. Les enfants, les gamins quand tu recules, je pense à Louvre particulièrement, tu peux la former à la bienveillance par rapport à des situations. Mais où elle est d'abord, non, je suis exprès de provoquer.
Tu peux l'éduquer, lui montrer un chemin.
Je peux l'éduquer à la politesse.
Oui, à la politesse.
Mais en fait, ce ne sera pas vraiment ressenti. Et justement, je trouve que les enfants...
Bonjour.
Oula, ça a l'air d'être un gros paquet.
Il y a un souci.
Il va blesser.
C'est
une soirée d'imprévu.
Il s'est blessé. Il s'est blessé le toubib.
C'est
une idée.
Ouais, c'est.
La fin d'urgence.
Moi, ce qui me questionne, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est. Par exemple, devant la vulnérabilité, la fragilité humaine, la maladie, le handicap, pourquoi certaines personnes vont avoir être touchées et avoir un élan et autres, au contraire.
Tu dirais à la maladie de l'autre ou à notre propre maladie?
Là, je pensais en face de la maladie de l'autre. Moi, ça m'a frappé quand j'ai travaillé à l'hôpital de voir combien il y avait des postures vraiment très, très, très radicalement différentes face à la souffrance, face à la maladie, à la
vie. Mais finalement, les gens ont peur. C'est peut-être ça aussi. De la maladie, de la souffrance.
Enfin, quand on travaille à l'hôpital, les soignants, à l'hôpital,
les soignants, l'hôpital, c'est du travail. Il n'y a pas assez de personnes.
Oui.
Il faudrait une personne pour une personne.
Mais même une personne pour une personne, ça ne dit pas que cette personne sera...
Non.
Qu'est-ce que toi, tu as constaté qui était le plus... peut-être bénéfique ou efficace dans une relation comme ça entre deux êtres dont un est malade, enfin dans ton expérience, tu vois, qu'est-ce qui t'a semblé le plus pour produire justement la plus belle conséquence?
C'est marrant parce que ça m'intéresse parce que si tu veux dans l'hôpital et autres, moi j'irai pas faire dire aux gens faites preuve d'un peu de bonté, j'irai faire preuve de bienveillance, tu vois, le mot bonté, je ne l'utilise pas, parce que j'ai cette espèce de machin dans la tête, sauf quelqu'un, on dit, bon, c'est quelqu'un de bon, mais en général, mais...
Mais pour moi, dans la bienveillance, tu n'es pas touché de la même manière. Mais,
ah oui, non,
je, pour
je,
moi,
je
dans la bonté, il y a quelque chose qui est vraiment plus profondément touché en soi. Dans la bienveillance, presque, oui, la bienveillance, tu sais que c'est bien d'être bienveillant, donc
voilà,
tu vas chercher à être bienveillant avec l'autre, mais tu n'es pas forcément atteint par... je ne sais pas, y a, pour moi, il y a un vis-à-vis humain, quelque chose qui me... Enfin, je me reflète et je suis reflétée. Enfin, il y a
réciprocité. Là, j'ai l'impression que la bonté, c'est une maladie.
La bonté, c'est
bien. C'est une maladie.
Ouais. Mais elle n'a pas tort dans ce sens. Ouais. C'est ce que je dis, c'est quelque chose que tu ne C'est pas proactif, quoi. C'est ce qu'elle dit. Ça s'attrape. Tombe dessus, ça s'attrape, mmh. Ou tu l'as aîné, ou.
Attends,
la bonté. Non, mais tu l'attrapes, tu te parles un coup de bon.
Attraper la bonté.
Oui, attraper la bonté.
Attends, je vais vous manger, attraper la bonté.
Attraper la bonté avec une escarbon.
Bon, je trouve que ça va bien, bien, ça me fait penser à Aimé Césaire, là, qui parlait du fraternalisme, tu vois. Ce rapport entre le blanc et le noir, je pense qu'il y a beaucoup de blancs qui se trouvent bienveillants par rapport au noir. Tu vois, c'est-à-dire de prendre le fraternalisme, c'est ouais, prendre la main de ce grand frère qui prend la main du petit frère. Mmh. Mais est-ce que tu vois, on n'est pas dans une relation d'ouverture ou
d'équilibre.
D'équilibre. Ouais. Mmh. Ça, je trouve que après bienveillance, j'entends le mot et j'ai rien contre la bienveillance, mais je pense que c'est pas du même ordre. En fait.
Ah,
c'est pas
la même chose. Bien ce que je dis. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Oui, non, mais je suis un peu dans le sens de dire que on peut apprendre la bienveillance aux enfants et autres, mais
pas la bonté.
Pas la bonté, tu vois. Tu vois, c'est un peu.
Oui,
non, non, mais on
ça se montre. Hein, oui, ça se montre aussi.
Tu vois, moi,
j'adore la phrase de Bobin là sur quand il dit que la bonté, c'est un mot qui est devenu un gueux en fait. Et je pense qu'à un moment, il faut réhabiliter les choses. Et je trouve qu'une soirée comme ça, c'est un peu. J'ai parlé des mots comme de l'amour. L'amour, c'est un peu pareil. Tu parles d'amour. Tu vois, c'est Ségolène Royal qui a parlé d'amour. Alors, je suis pas fan de quand elle s'est élancée à un meeting à dire aimons-nous les uns les autres ou je sais pas quoi. Alors mais en fait, elle a été complètement moquée, raillée.
Oui,
pourquoi on ne peut pas parler d'amour
Tu
vois, c'est. Parce que c'est associé. Ça. Parce qu'il y a dans la bonté, il y a quand même cette dimension de vulnérabilité, de fragilité. On est quand même dans un monde qui s'illusionne sur son. Toute puissance, donc et ça fait peur effectivement, parce que c'est sûr que quand on est face à la vulnérabilité, à la maladie, à la mort, on n'est rien, enfin on est confronté à
sa propre fragilité,
Et que ça demande, je sais pas.
Moi, il me semble que la bonté, c'est tout l'être qui est mobilisé, quoi. C'est ça la différence, je pense. Il y a une cohérence, une unité, voilà, le terme que je cherchais, c'est l'unité, c'est l'unification des personnes par rapport à ça. Et le grand frère qui prend la main, et ben c'est une disposition, mais c'est pas forcément tout son être qui est en présence dans ce. Dans ce. Ce qui est très bien, hein, c'est pour moi, c'est quand même la chose. Il n'est pas forcément unifié, tu peux prendre la main de ton frère et l'emmener à l'école et que ça te fasse suer et que tu. C'est autre chose. C'est encore. Alors que la bonté, c'est il y a une présence, il y a la disponibilité, il y a.
Il y a le.
Il y a. Il y a
pas de calcul.
Il y a le concerné, et il n'y a pas de possibilité, d'enjeu d'emprise. Mais au contraire, d'accueillir l'altérité pour que cette bonté elle puisse continuer à s'épanouir. Elle donne un espace de liberté pour à l'autre. Et donc un espace de vie en fait. Elle offre un espace de vie.
Vous voulez nous lire des passages de Jacques Lucerand ?
Oui, mais j'avais. C'était pas spécialement sur la montée d'ailleurs.
Mais
c'est des passages qui étaient intéressants.
Non, c'était. Donc, on devait avoir des choses sur la montée, certainement. Je regarderai.
Et dans Ressuscité aussi, de Christian Bobin. Ouais.
J'assiste avec épouvante au progrès de la maladresse. Je veux parler, bien sûr, de la maladresse fondamentale, de celle qui nous empêche de distinguer entre le bonheur et le malheur. Entre le plaisir et la joie, entre le remède et le poison, de celle qui transforme la totalité de nos sensations en sensations biologiques obscures, de celle qui annule notre odorat, notre ouïe, notre vue, notre toucher intérieur. Et j'ai le droit d'être effrayée parce que je constate la peine que j'ai, tout le premier, à maintenir mon agilité profonde, mon contact avec la vie, à l'instant où elle me traverse. Je trouve que c'est très beau.
Mmh. Justement, je trouve qu'elle met en valeur l'intériorité.
Oui.
C'est ça que qui me touche beaucoup. Je trouve que c'est bien exprimé.
Si on veut faire le parallèle avec la bonté, il y a aussi une difficulté à rester au contact.
Oui.
C'est, j'aime bien, elle parle d'agilité. Et il y a une notion presque un peu de gymnastique, quoi,
oui.
Pour pouvoir se remettre au contact de cette émotion, cet état d'être.
Alors il y a une autre aussi qui est très bonne, c'est sur la vieillesse. Le premier homme sur ma route, c'est un vieillard. Vous ne pouvez vous figurer combien j'en suis heureux. Je ne sais pas s'il existe une bénédiction plus grande que la rencontre d'un vieillard véritable, c'est-à-dire joyeux. Elle nous est rarement donnée, car l'âge, ce n'est hélas pour la plupart des hommes que l'addition sourde et dégradante des années physiques. Mais quand un vieil homme est joyeux, il est si fort qu'il n'a plus même le besoin de parler. Il vient et il guérit. Celui qui emplit ma mémoire était de cette sorte. Il s'appelait Jérémy Regard.
C'est Jacques Dussrand qui dit ça, Jérémy Regard, pour quelqu'un qui est devenu aveugle.
Oui, oui, oui. Alors, il dit, et ensuite, ce n'est pas moi qui lui donne ce nom, c'était le sien.
Ah oui.
Combien de romanciers voudraient l'avoir inventé?
Tout à fait exact.
Est-ce que Puch, elle est où?
Peut-être Saint-Exupéry, un peu dans le Petit Prince. Il y a
ah oui, quand même. Oui, c'est très vrai.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ah, dans le Petit Prince, tu lis Yelda Bonté.
Bah oui,
quand même.
On le voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, et puis apprivoiser.
Je l'apprivoise. Je l'ai pas mis de la bonté, là. Pour
le Petit Prince.
Oui.
Ouais, c'est quand même.
Non, mais j'ai quelques réticences, comme vous avez pu remarquer, sur le mot bonté.
Oui, mais tu es quand même venu ce soir, c'est bien.
T'as pris des risques, quand même.
Vachement, oui.
Non, elle a touché un petit coup pour la route.
Mais c'est intéressant parce que ça me permet de
voir parce que maintenant, parce que sinon je vais partir.
Ah bah non.
Je vais être capable de mettre à voler encore.
Ah, non, mal. Non, ce qui est intéressant, c'est comment les mots sont connotés pour chacun
de
et quand on emploie un terme, on imagine que voilà, qu'il est perçu de la même manière.
Oui. En fait.
Mais effectivement, je pense qu'une grande majorité des gens ont une représentation de la bonté qui est limitée à trop con.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
À bientôt.
Et puis il y a des mots qui sont bonsoir.
Bonsoir.
Des mots qu'on n'utilise plus, qui reviennent. Par exemple, la souveraineté, c'est quelque chose qui revient, mais qui était, tu vois, des mots comme la bonté, la souveraineté, des vertus, des valeurs, qui presque.
Mais tu vois, je me demande si c'est une histoire d'époque aussi, et dans notre époque contemporaine, ça a été malmené, enfin, ces termes-là. Mais tu regardes quelques siècles en arrière, c'était la bonté, je pense, c'était une des qualités. Les plus recherchés qui traversent toute la littérature, toute la philosophie, et c'est pour ça que les gens, enfin les plus philosophes, ont posé la question.
C'est vrai que c'est très dévalorisé maintenant.
Aujourd'hui, il y a des mots, comme même la pitié, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est très. Et alors qu'avant, c'était.
Voilà, utiliser ce mot-là.
C'est ça. Et ça vient, étymologiquement, c'est un mot qui est très intéressant, ça vient de piété. Enfin, c'est la même racine, en fait. Et oui. Et donc, le langage subit notre vision, en fait. Enfin,
Tu as raison.
C'est intéressant. On voit bien qu'avec le cœur, c'est quand même ça qui ressort, même s'ils disent que ça parcourt tout le Petit Prince, en fait. C'est présent.
Mais c'est pas
Et dit cette phrase résume l'idée que la vraie bonté naît de l'attention, de l'écoute, de l'amour, bien plus que des apparences ou des calculs. Et le Petit Prince célèbre la bonté comme une qualité essentielle liée à la capacité de s'ouvrir à l'autre, de se rendre vulnérable et de prendre soin même des choses les plus fragiles.
Voilà. Et de se rendre vulnérable.
Voilà. En fait, je pense que le se rendre vulnérable est
fort.
Fait vraiment partie de la bonté. C'est-à-dire que tu peux pas être dans la bonté si tu es dans la puissance. Oui. C'est ce que tu dis.
Exactement.
Et je pensais, moi, il y a un mouvement qui s'est fait un jour où j'ai réalisé que recevoir un cadeau, quand on reçoit, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas recevoir de cadeaux, qui se sentent redevables et qui n'aiment pas qu'on leur fasse des cadeaux. Et je me dis qu'il y a aussi une forme de bonté, de simplicité à accueillir des cadeaux, parce que c'est un... Voilà, on se... Enfin, c'est pas qu'on se vulnérabilise en recevant un cadeau, mais ce qu'on dit à l'autre, c'est important que tu sois là et que je reçoive de toi, donc il y a quelque chose d'une circulation aussi.
Et puis c'est faire honneur au don.
Oui, enfin, c'est faire honneur au don.
Et
c'est reconnaître la valeur de l'autre et le fait que...
Ouais, complètement.
Mais on est aussi dans... Enfin, c'est un peu sur le café du commerce, mais dans un monde où... Il est vu comme une faiblesse d'avoir besoin des autres. Enfin, c'est pas un secret, mais encore hier soir, il y a une personne qui venait et qui disait « Non, mais en fait, moi, ma mère, elle me dit que si je viens voir quelqu'un, c'est que je suis folle. Enfin, il faut pas, quoi. Enfin, avoir besoin des autres, je ne dois pas avoir besoin des autres.
On bascule un peu dans une logique solitaire.
Ou alors on peut avoir besoin de ses proches, parce que ça c'est en famille, mais pas au-delà.
Et encore,
vu par les proches. Ça c'est vu par les proches. Ça fait le rigot. Francis, tu voulais nous partager quelque chose?
Non mais. On a dit qu'il fallait essayer d'écrire quelque chose de poétique. Alors moi, je fais de la poésie avec mes pieds, mais ça, c'est pas très bien pour...
C'est fort.
C'est le rêve des peintres.
Et donc, bon, j'ai écrit un petit texte que je t'avais envoyé déjà une fois. Et en plus, c'est la saison, donc si vous voulez, je peux bien le lire. Je voudrais que ce soit poétique, mais c'est pas forcément poétique.
Il faut simplement qu'il y ait le mot bonté.
Et tu vas voir que j'emploie le mot bienveillance, ma pauvre. Allons. Alors, moi j'y vais, je me lance. Par une belle matinée d'automne, c'était il y a 2 ans, exactement, alors que je vais quitter ma maison pour ma 100e chimio à l'hôpital de la Croix-Rousse, je flâne dans mon jardin. Je suis émerveillé par l'abondance des fleurs, car cycamène et crocus le tapissent, beauté d'une vie et d'une saison de vie. Je vous invite à venir le voir, c'est en plein maintenant toujours. Retour à une réalité moins romantique, je suis allongé à l'hôpital, sur mon lit et branché de tous les côtés. Mon esprit vagabonde avec une légère nostalgie pour ce moment merveilleux que j'aimerais tant immortaliser. C'est à ce moment-là qu'apparaît dans la porte une jeune femme qui s'approche de moi. En quelques mots, je comprends qu'elle peut concrétiser, réaliser et immortaliser mon rêve. Elle va, au moyen de son objectif photographique, partager avec moi son regard sur ma vie avec sa grande composante cancer. Une rencontre est rapidement organisée chez moi, dans mon lit, occasion d'une déambulation à la fois dans mon lieu de vie et dans ce moment de ma vie. Au rythme mélodieux et discret des clics de son appareil photo. Chaque instant est saisi par la photographe et un regard de care, dont la traduction est plus proche « attention bienveillante ». Bon, j'en profite pour placer mes idées. Je n'ai pas marqué de bonté, j'ai marqué bienveillante. Les photos sous forme d'un diaporama expriment magnifiquement cette rencontre entre moi qui vis avec un cancer et une photographe artiste. Cette vision est un précieux soutien dans ma vie de patient atteint de cancer.
Mmh. C'est très beau.
Il y en a une qui a eu le droit à avoir un peu les autres.
Privilégié.
C'est d'accord. La logique du care, Ce moquer, justement, c'est pas...
Ouais,
moi, je pense... Avec le café, on travaille la question de la réciprocité dans le soin, ce qui n'est pas très fréquent. Et c'est pas le care, quoi. Mmh. Le care, y a pas de... pour moi, il n'y a pas de réciprocité. Et du coup, bah, c'est un soin bienveillant, effectivement.
Alors, si je crache un morceau, je fais un petit coming out, si ça, un jour, on voulait le faire, je fais un cours qui est, attention, les chevilles mondiales, c'est un projet Erasmus, je l'avais dit, je crois, hein, un projet Erasmus de la faculté de Grenoble, c'est-à-dire j'ai des gens qui sont en Nouvelle-Zélande, d'autres en Inde, d'autres en Pakistan, etc. Et je passe 2 heures avec eux, en visio, bien sûr. Alors, l'histoire, je vous dis comment je suis arrivé là, c'est-à-dire qu'ils cherchaient quelqu'un qui soit un patient, gravement malade, qui soit encore en vie, qui parle anglais, qui sache animer des visios, et qui comprennent aussi bien le pakistanais que le canadien. C'est pas évident, surtout d'animer... Non, c'est pas évident d'animer...
Tu comprends le pakistanais ?
Non, mais c'est l'anglais pakistanais.
Non, l'anglais pakistanais. Ah, oui. Parce que les fréquences, la gamme de fréquences est très large.
Voilà. Okay. Mais, tu vois, de temps en temps, mais je te remercie. Super. C'est ce qui m'a fait le coup d'après.
Est-ce que tu t'ennuies pas, Francis, de m'appeler ta canne ? Je suis un peu ta canne.
Oui, c'est vrai, ma canne. Je vais avoir des problèmes.
Tu t'appelles Benjamin, pourtant.
Voilà. Donc, alors, ce cours, c'est un cours qui forme les gens à tout ce qui est intelligence artificielle. Et alors, c'est. Alors, excusez-moi, c'est compliqué, mais c'est une expérience que je vis avec Jean aussi, donc il est tout à fait. Il est à la fois victime et acteur de cette histoire. Donc, j'explique comment le patient vit l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas le faire en français, mais je vais essayer de le traduire. Je dis que ce qui est formidable dans l'intelligence artificielle, c'est dans le cure. Alors le cure, c'est le médecin. Cure. On va voir le cure, oui, c'est-à-dire que c'est le médecin. Il voit tout ce qui arrive sur son ordinateur. Il voit les résultats. Tout ça, il a tout ça devant lui. Donc, et on a des diagnostics beaucoup plus rapides. J'explique autrefois, je le regarde parce que je vois si c'est mon médecin, je ne veux pas qu'après il me maltraite, il a de la bonté, mais je crois qu'il a de la bonté, c'est bon, je suis sauvé. Et parce qu'autrefois, le médecin, mais ça m'intéresse, je regarde plus lui que les autres, le médecin réagissait beaucoup par l'intuition. Il ne pouvait pas se justifier par rapport à son patient. Il disait, mais je crois que là, ben, vous avez la rougeole ou des choses comme ça, mais il n'avait pas de preuves scientifiques. Je suis quand même très formaté scientifiquement. Et maintenant, quand je vais voir Jean Roubaud, l'oncologue, à la Croix-Rousse, il a tous ces éléments qui arrivent, des analyses et tout, et il a ça. Et alors je dis, maintenant, ce qui est nouveau, c'est le share. C'est-à-dire qu'on va partager. Et c'est vrai que quand je vais voir mon oncologue, Jean le fait un tout petit peu, mais un peu moins. C'est-à-dire que je ne me mets pas face à lui, l'écran, c'est un écran. Il dit, viens te mettre à côté de moi. Il regarde, je découvre les résultats en même temps que lui. Bon, il regarde. Il dit, ah ben voyez, tu vois, l'intelligence du radiologue me dit que ce nodule-là, il n'a pas bougé. Ah, celui-là, c'est bizarre, il s'est un peu déplacé. Mais je partage tout ça avec lui, il le partage. Il me fait des commentaires, je vois, mais les résultats d'analyse de sang, je continue, excuse-moi. Hein. Il dit, ben là, il y a quand même un peu de glycémie, là, vous devriez avoir qu'un gramme par litre. Là, et, bon, je vois qu'il y a 0,9, vous avez de la chance, parce que si vous aviez eu 1,1, je vous aurais donné un médicament, mais là, il ne faut peut-être pas qu'on donne un médicament et autres. Et tout ça, et alors ce que je dis, alors c'est un peu une théorie, mais qui passe bien dans le monde, en sachant, c'est formidable, parce que le cure plus le share, ça fait le care. Mmh. Et c'est ça, c'est un partage, en conséquence, on partage, et c'est très très différent dans la relation qu'il y avait autrefois. Toutes ces données sont intéressantes, et à la limite, ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a des étudiants qui travaillent là-dessus, tout ce qu'il a dit, tout ça, il n'a pas besoin de prendre des notes. Et je dis parce que ça gagne du temps, parce que les médecins, toi tu tapes vite, mais je vois des médecins qui sont là comme moi, tout de suite tu as un compte-rendu entier qui ressort, qui dit voilà, il a vu Francis Piton, ils ont discuté de ça, il y a ça, 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 le médecin lui a proposé, qu'est-ce qu'on fait, c'est mon cas, est-ce qu'on arrête la chimio ? Bon, ça justifierait de continuer, mais si peut-être qu'à la fin, là, c'est la chimio qui va le tuer, c'est pas le cancer. Puis deuxièmement, il me dit, oui, théoriquement, si j'étais un bon médecin, je devrais faire une biopsie dans les poumons. Il dit, c'est douloureux. Je dis, putain, oui, vous m'en avez déjà fait trois, et c'est pas drôle. Et puis il dit, en plus, moi, j'aime pas faire des biopsies, parce que parfois, on touche des cellules, on fout le bordel un peu dedans, alors que là, est-ce que c'est enkysté? Je peux pas vous dire. Donc il dit, bon, on laisse tomber les biopsies, mais quand même, tous les 6 mois, on fera... Et alors, tout ce qu'on raconte, c'est l'ordinateur qui enregistre tout, hein, et il ressort un résumé assez extraordinaire. Yeah. Mmh. Alors, est-ce que je peux raconter que j'ai fait une vacherie à Jean? Je peux.
Ouais, ça serait bien pour Jean.
Mais c'est bon. Je peux te le donner.
Est-ce que c'est de la bonté vis-à-vis de Jean?
Il faut peut-être.
Avec beaucoup de bon.
Si ça enregistre, il faut peut-être arrêter.